Chers frères et sœurs, c'est probablement le verset le plus court de toute l'Écriture. Jésus pleura. En grec, c'est deux mots. Dans notre traduction liturgique, alors Jésus se mit à pleurer. Lorsque les éditeurs de la Bible ont numéroté les chapitres et versets au XIIIe siècle pour les chapitres, et au XVIe pour les versets, au moment de l'imprimerie, ils ont judicieusement limité ce verset à ces deux mots. Jésus pleura. Ils ont ainsi mis en relief cette attitude de Jésus, son humanité. Comme au puits de Jacob, où il était fatigué, épuisé, ayant soif non seulement d'eau en plein midi, mais de la foi de la Samaritaine, de la rencontre avec elle, ainsi l'humanité de Jésus s'exprime ici aussi, sobrement et fortement, Jésus pleura. Lazare était son ami, et humainement, Jésus est bouleversé par sa disparition. Tout fils de Dieu qu'il est, la mort de Lazare lui apparaît comme un déchirement, une séparation douloureuse. Jésus se révèle donc proche non seulement de Marthe et Marie, mais aussi proche de nous, de nos chagrins et de notre trouble devant la mort. Lazare est rappelé à la vie, même s'il lui faudra mourir un peu plus tard. Ce geste de Jésus est donc l'annonce prophétique de sa propre victoire sur la mort à Pâques. Et dans cet évangile, ce que je désire souligner ce matin, ce n'est pas seulement la victoire de Jésus sur la mort, mais plutôt comment l'entourage de Jésus est appelé à entrer dans la foi et puis à progresser sur ce chemin difficile, parce qu'il y a là un grand enseignement pour nous. Alors tout d'abord, vous l'avez entendu, la réaction de Marc, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et ensuite, Marie, parvenue au tombeau, fait elle aussi la même remarque. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe et Marie sont donc l'icône de nos attentes vis-à-vis de Dieu, attentes compréhensibles et pourtant si maladroites, comme si Dieu n'était là que pour empêcher la mort, laquelle fait pourtant partie de nos vies, nous le savons bien, nous sommes mortels. Mais Jésus n'est pas indifférent à ces demandes. Devant les larmes de Marie et des Juifs qui l'entouraient, saint Jean écrit que Jésus fut saisi d'émotion. Et si pourtant, Jésus était là aussi et surtout pour nous permettre de vivre, y compris face à la mort, et d'intégrer la mort. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus à Marthe. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Joignons-nous à elle pour confesser, oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Autrement dit, la victoire de Dieu sur nos larmes et finalement sur la mort, ce n'est pas seulement la victoire pour après, c'est la victoire dans l'avant, dans notre vie quotidienne ici-bas. Ce n'est pas seulement « si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort » et ce n'est pas non plus seulement « oh, après la mort, il doit bien y avoir quelque chose, mais on ne sait pas trop ». C'est surtout « mon Dieu, je te fais confiance, cette vie que tu m'as donnée, cette vie que tu as accompagnée et guidée, malgré mes faiblesses, tu vas me la redonner, et pour toujours. Et je peux te faire confiance à cause de Jésus. » Oui, un Dieu pour la vie au quotidien, c'est ce qui s'exprime dans la grande promesse du prophète Ézéchiel et dans les mots de saint Paul, première et deuxième lecture de ce jour. En effet, lorsque le prophète Ézéchiel promet que Dieu ouvrira les tombeaux d'Israël. Il parle de la tragédie de ce peuple en exil. Pour Israël, sortir du tombeau, c'était d'abord revenir sur sa terre. J'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. C'est donc d'abord la résurrection du peuple, sa victoire sur la déportation. Mais bien sûr, cette image est si forte qu'elle fera son chemin dans le cœur des croyants, des tombeaux qui s'ouvrent. Et aujourd'hui, nous, chrétiens, nous y lisons l'annonce, non seulement de la résurrection d'Israël, mais de notre propre résurrection au-delà de notre mort. Dieu a non seulement mis en nous le souffle de vie reçu à notre naissance, il nous donnera aussi son esprit pour tisser en nos existences une vie que la mort ne pourra pas anéantir. Saint Paul exprime cela en des termes très forts et très clairs. Nous avons le choix entre, dès maintenant, vivre selon la chair ou selon l'esprit. C'est-à-dire avoir une logique purement terrestre, suivre notre pente, nos instincts, parfois généreux, mais parfois aussi égoïste et violent. Et tout cela, dans le meilleur des cas, est beau, mais reste fragile et fugace. Et dans le pire des cas, nous le voyons chaque jour, c'est source de mort, de guerre et de larmes. Et la mort met un terme à tout cela. Le croyant, lui, ne peut pas se résoudre à vivre sous l'emprise de la chair. C'est-à-dire que, malgré nos faiblesses, nous pouvons être attentifs à la vie de Dieu en nous, agrandir notre cœur pour accueillir cette vie divine, cette inspiration par laquelle Dieu nous conduit sur des chemins qui, par exemple, sont des chemins de charité et donc des chemins d'éternité. C'est une question d'appartenance, écrit saint Paul. Est-ce que nous appartenons au Christ, oui ou non ? Est-ce que nous ratifions cette appartenance, oui ou non ? Est-ce que ça compte dans notre vie, oui ou non ? Et suivant notre réponse, nous aurons ou n'aurons pas un avant-goût pascal dans nos vies, maintenant, dès ici-bas. Si le Christ est en vous, le corps reste marqué par la mort, écrit saint Paul. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je terminerai par quelques versets du très beau psaume 15 que nous prions le soir au compli. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices.